Bienvenue sur la page Bible Espoir. Nous sommes heureux de vous y accueillir et nous vous souhaitons une bonne écoute.
Dans l'épître de Jacques, chapitre 3, je crois que Dieu nous a donné une faculté extraordinaire, c'est de parler. La parole. Mais nous avons cet enseignement sur ce texte qui nous est rapporté par l'apôtre sur l'usage de la parole. Alors, chapitre 3, verset 1er. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous brochons tous de plusieurs manières, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires, qui sont si grands, et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer, elle est pleine d'un venin mortel. Par elle nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne, des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite, avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix. Voilà, que Dieu nous bénisse à travers sa parole ce matin. Et il y a naturellement, comme dans d'autres passages de la Bible, matière à réflexion autour de ce sujet. L'apôtre Jacques commence à enseigner ses lecteurs en disant ceci, qu'il n'y ait pas un grand nombre qui se mette à enseigner. Il y a dans une traduction peut-être plus moderne, mais qui nous donne une amplification de la pensée, dans la traduction de Quen, il dit ceci, « Ne vous empressez pas d'assumer le ministère de l'enseignement dans l'Église. » Mais par-delà, finalement, eh bien, ce ministère distingué, il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites, et si elles sont dites en encouragement, en exhortation, en paroles bienfaisantes, alors tout le monde souscrit et tout le monde dit Amen. Et c'est pourquoi l'apôtre veut souligner des choses importantes. Et c'est vrai que quand il restreint le nombre d'enseignants, c'est vrai que c'est une inclinaison tout à fait légitime et honorable que de faire part à autrui, eh bien, ce que nous savons, et de leur communiquer nos expériences. C'est ce qu'on appelle le témoignage ou la connaissance acquise, et ça peut naturellement faire du bien. Mais la parole de Dieu suggère, dans ce texte et dans d'autres textes, il nous met en garde contre l'orgueil. Et la recherche d'être probablement admiré, d'être applaudi, d'être écouté en maître, une mise en avant, c'est certainement une grande responsabilité pour ceux qui sont appelés à remplir ce rôle ou cette fonction, mais dont la prière et la parole de Dieu que nous ouvrons ce matin est avant tout un garde-fou. J'aimerais particulièrement, et au-delà finalement de l'enseignement, et aller beaucoup plus loin, donner quelques citations de la parole de Dieu qui nous rappellent certaines choses, certains principes. Dans le livre des Proverbes, qui est très prolixe par rapport aux enseignements sur l'usage de la parole, eh bien au chapitre 10 et au verset 9, il nous est dit ceci. « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » Et ça, c'est vrai. « Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. » C'est aussi vrai. Maintenant, celui qui se tait, faisons attention parce que ce n'est pas pour ça qu'il est pour autant sage. Quelquefois le non-dit ou la restriction de parole alors qu'il faut dire des choses. Et je crois que nous avons peut-être besoin de demander dans nos prières, les uns et les autres, de dire ce que nous avons à dire et de taire ce que nous avons à taire. Et que finalement le tempo des choses, de notre parole, doit venir eh bien, de l'inspiration de Dieu, du Saint-Esprit. Un peu plus loin, j'ai un autre texte qui est placé aussi à notre réflexion, c'est toujours Proverbe au chapitre 13 et au verset 3, il est dit ceci, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » Quelquefois on pourrait toujours penser que ça peut porter préjudice aux autres, mais à commencer que dans cette sagesse qui est recommandée, « Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. » »« Celui qui ouvre de grandes lèvres. » Alors, quand tout le monde n'a pas peut-être de grandes lèvres, mais toujours est-il que ça veut dire de parler beaucoup, d'avoir une bouche largement ouverte, « celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. » Donc le danger est beaucoup plus grand, souligné dans ce deuxième verset. Et puis, pour en finir avec le livre des Proverbes, parce que nous aurions pu multiplier tout au long de ce culte, mais le but n'est pas là, de répéter et de multiplier des versets bibliques, au chapitre 18, au verset 7, « La bouche de l'insensé cause sa ruine, et ses lèvres sont un piège pour son âme. » Donc il y a toujours une responsabilité qui va et qui se porte à notre rencontre personnelle à partir du moment où nous ne savons pas, finalement, nous ne maîtrisons pas l'usage de la parole. Au verset 21, toujours dans ce chapitre 18, il est dit « La mort et la vie ». Vous voyez, il y a une amplification, et là nous parlons de mort et de vie. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Quiconque l'aime en mangera les fruits. Et c'est vrai que nous avons tous fait l'expérience qu'en parlons quelquefois de trop, eh bien, là se retourne contre nous-mêmes. Voilà que, après avoir donné cette pensée dans ce verset premier de l'enseignement, l'apôtre Jacques ajoute ceci dans cette petite phrase, « Nous brochons tous de différentes manières. » Nous brochons tous. Alors, je voudrais vous poser une question. Suffit-il de se couper la langue pour être parfait? Alors imaginez-vous que si à chaque fois que nous avons dit des choses que nous n'avions pas dû dire, nous n'avons qu'une langue. Alors couper une fois, ça ne repousse pas. Il y a certains organes qui repoussent, mais là, il n'y a pas d'espoir que finalement, eh bien, il puisse y avoir une suite. Et c'est vrai qu'on le comprend d'une manière, eh bien là, tout à fait de bon sens, que ce n'est pas parce qu'on va se couper la langue que les choses vont nous amener à la perfection. Et nous apprenons toujours par la parole de Dieu que ce n'est pas la langue. Mais c'est dans le cœur qu'est le péché. Et ce qui anime la langue, eh bien c'est ce qu'il y a dans le cœur. Je dirais qu'un cœur purifié donne une langue sage. Et c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas s'attendre à un miracle instantané en disant « Seigneur, je te demande la sagesse » et que du jour au lendemain, eh bien, les choses vont se faire. C'est un apprentissage au quotidien, dans notre vie. De longue haleine, nous pourrions dire. Et c'est Jésus qui, là, eh bien, en reprenant la parole, nous dit ceci dans Marc, un texte que vous connaissez bien, dont parfois nous nous servons même jusque dans l'évangélisation. Au chapitre 7, deux versets, il nous est dit ceci. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les débauches, les meurtres, les vols, la cupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Et il ajoutera ceci en conclusion de ce petit paragraphe, « Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Avec notre langue, nous avons souvent le désir d'exprimer ce qui ne va pas chez les autres. Mais Jésus nous ramène à la réalité et nous dit « Attendez, n'allez pas trop vite, parce que finalement, à partir du moment où tu utilises ta langue pour peut-être regarder les autres, il faut d'abord que toi-même tu descendes un petit peu de ton côté et que tu regardes. » Et c'est toujours le même apôtre Jacques qui ira jusqu'à écrire, en conclusion du chapitre premier de son épître, la même épître que nous avons ouvert il y a un instant, il dira ceci, « Si quelqu'un croit être religieux, peut-être nous pourrions y adapter un mot plus judicieux en ce qui nous concerne, si quelqu'un croit être spirituel, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion, dit Jacques, de cet homme, la foi, la spiritualité, la démarche vers Dieu de cet homme, est donc vaine. » Alors que veut dire broncher de différentes manières? Eh bien, peut-être nous pouvons y comprendre beaucoup de choses, mais forcément, puisque le sujet est devant nous dans ce chapitre 3, il y a certainement l'inclusion dans cette manière de broncher, la légèreté de ce que l'on dit. Et vous savez, on dit beaucoup de choses. Et on dit bien des choses qu'il ne faudrait pas dire. C'est probablement une sous-estimation du mal qu'on peut faire par des propos irréfléchis. Alors de la manière dont nous utilisons cette faculté formidable et merveilleuse, parce que imaginez-vous que les animaux n'ont pas le langage. Nous avons, parce que nous sommes des êtres supérieurs, créatures de Dieu naturellement au même titre que tout le reste, mais Dieu nous a donné à la fois une possibilité de parler et une intelligence pour utiliser finalement notre langue. Et des propos irréfléchis, il y en a de toute façon, de toute manière. Ce peut être des jugements. Ce peut être également des médisances, parce que je rappelle la définition de la médisance, c'est dire des choses vraies dans le but de faire du mal. Alors imaginez-vous, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça qu'on doit le dire, si c'est pour discréditer quelqu'un. Ce peut être des plaisanteries. Ça fait du mal, la plaisanterie. Peut-être d'autres, eh bien, y verront la moquerie, ou les rumeurs. Ah, les rumeurs, notre monde est traversé de rumeurs, et qui fait un mal considérable. Parler n'est pas seulement communiquer ses propres pensées. Et c'est là où nous allons rentrer peut-être plus précisément dans l'enseignement que veut nous laisser Jacques. C'est aussi, à partir du moment où je parle, c'est aussi préciser et renforcer pour soi-même, en les exprimant, ses propres sentiments, impressions ou opinions. Je peux garder les choses pour moi-même. Je peux avoir beaucoup de choses au fond de mon âme, mais à partir du moment où je les exprime vers l'extérieur, je les traduis aux yeux des autres, alors ce que je dis, eh bien, va finalement donner du corps à mes paroles, de la consistance, de la force, de ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Je peux garder mes pensées, mais à partir du moment où je les exprime, je vais donner de la consistance à ce qui se passe à l'intérieur de moi-même. Parce que je ne serai plus seul à le penser, mais d'autres vont le savoir. Donc ça renforce ça lui donne du corps en quelque sorte à ce que je crois. Sans le dire, beaucoup de choses ressenties ou pressenties, des faits resteraient fugitifs et passeraient sans laisser de traces. Mais à partir du moment où je l'ai dit, il va y avoir des traces. Quelqu'un d'autre l'aura entendu. Quelqu'un d'autre l'aura reçu. Alors si ce sont des paroles de bénédiction, des paroles d'encouragement, des paroles qui font du bien, c'est-à-dire des paroles bienfaisantes et bienveillantes, il y aura des traces dans le bien. Mais si c'est le contraire, si je n'ai pas pris toute la mesure et l'implication de mes paroles, alors à ce moment-là, ça peut être quelque chose de dévastateur. C'est comme quelqu'un, je rappelle cette histoire très simple, quelqu'un qui avait l'habitude de médire. Et puis, un jour, cette personne a pris conscience que finalement, elle médisait, parce qu'on n'en prend pas toujours conscience. Le problème, il est là. Et qu'un jour, elle est allée voir son pasteur ou quelqu'un qui pouvait la renseigner. Il lui a dit, écoutez, madame ou monsieur, eh bien, en raison de ce que vous avez dit de ceci et cela, eh bien, maintenant, je voudrais vous faire faire une petite expérience. Vous allez monter sur un endroit où il y a du vent et sur une colline. Et puis, vous allez jeter un sac de plumes. Vous allez le disperser au vent. Et puis après, vous reviendrez me voir avec toutes les plumes que vous aurez récupérées. Ben, vous pouvez toujours y aller. Hein. Et les paroles, c'est ça. C'est quelquefois, nous vidons notre sac. On le secoue bien. Et une fois que c'est parti, c'est parti. Et ramasser des plumes dans le vent, comme la plume au vent, c'est difficile à rattraper. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses que, si elles ne dépassaient pas la porte de notre bouche, resteraient pour nous-mêmes. Et il n'y aurait pas, finalement, de traces. Mais il y en a des traces. C'est quand, en parlant des choses qui sont à l'intérieur de nous-mêmes, on leur confère une certaine puissance, on leur donne l'existence. On amène ces paroles à être, à exister, et peut-être pour reprendre une parole, une pensée évangélique, ce qui est dit est dit. Et une fois que c'est dit, c'est bien dit. Alors dans le bien comme dans le mal. Encore un autre passage dans le livre des Proverbes où il est dit ceci, peut-être justement pour confirmer cette pensée, dans le chapitre 21, simplement en tournant quelques pages de notre Bible. Voilà, chapitre 21 du livre des Proverbes, où nous trouvons cette parole au verset 23. « Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. » Et qui d'entre nous n'a pas quelquefois réalisé que nous avions parlé de trop, que nous avions dit des choses et que notre conscience et le Saint-Esprit nous invitent à trop parler. Tu as dit des choses qu'il n'aurait jamais fallu dire et que nous avons été vraiment malheureux de cela. Et encore, c'est heureux que nous soyons malheureux. Excusez-moi, hein, m'exprimer ainsi. Parce que c'est peut-être là où nous apprenons certaines choses, que nous nous mettons à l'école du Seigneur. Il y a un vieux précepte, un vieux dicton français qui dit ceci. C'est une grande misère de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Mais écoutez la suite. Car trop gratter cuit, et trop parler nuit. Moi, je souscris, c'est peut-être pas biblique, mais je souscris quand même, parce que finalement, c'est à l'usage des choses de la vie qu'on apprend. Et c'est vrai que quand on gratte de trop, ça finit par cuire. Et quand on parle de trop, eh bien, ça finit par nuire. Et ça, c'est aussi, eh bien là, une confirmation de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Les versets suivants nous disent ceci. Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Voici trois exemples que l'apôtre Jacques place devant ses auditeurs, trois exemples du pouvoir de la langue comparés à trois objets à l'apparence insignifiante. Le mort d'un cheval, ensuite le gouvernail d'un bateau, et puis le feu. Alors il y a certainement une leçon à tirer de cela. Le mort du cheval est une pièce de bois ou de métal, davantage de métal, qui implique pour l'animal l'obéissance et sa maîtrise par le cavalier. Et c'est vrai que lorsque nous regardons peut-être le travail d'un cheval, que ce soit un cheval dans les labours, ou que ce soit un cheval de cirque, ou que ce soit un cheval de course, nous voyons que, eh bien, il obéit. Il obéit parce qu'on lui a mis quelque chose dans la bouche. Et ça paraît assez cruel, hein, comme cela, mais bon, il semblerait que les chevaux ne s'en sont jamais plaints. Hein, mais bon, ils ne peuvent pas parler. Toujours est-il qu'on arrive à maîtriser naturellement l'animal. Parce que ce petit objet est placé à un endroit vulnérable et sensible. Et on en fait ce que l'on veut. On peut le faire avancer, on peut le faire reculer. Avec quelques petits gestes, eh bien, on dirige un animal, une bête, qui est énorme bien souvent. Ça, c'est la première application. La deuxième application, c'est le gouvernail du navire, qui est un élément invisible parce qu'il se trouve sous l'eau, à l'arrière de grands vaisseaux, et il est capable par son maniement de contrôler et d'utiliser les forces de la nature, même dans la tempête. Le gouvernail est une pièce quand même assez importante, mais elle disparaît parce que le bateau, eh bien là, recouvre cet élément. Et nous voyons que lorsqu'il y a de l'ouragan ou de la tempête, heureusement qu'il y a un gouvernail, parce que ça permet au bateau de se tourner, de naviguer tout simplement. Et cela au gré d'un seul homme, le pilote. C'est lui qui détient dans ses mains, avec ce qu'on appelle une barre, eh bien finalement là la direction qu'il doit donner à des bateaux quelquefois gigantesques. On le voit hein, dans ce port là, il y a des bateaux énormes. Et on ne pourrait pas soupçonner que finalement, on sait, mais que derrière, eh bien, quand il doit prendre le chenal pour sortir, aller dans la rade et puis partir en haute mer, il y a là toutes des manœuvres qui sont faites. Et il y a des gens qui sont experts pour ça. Et puis, après le mort du cheval, après le gouvernail, il y a un petit feu, nous dit Jacques, un petit feu qui commence par une étincelle. C'est comme ça hein, que les choses ont commencé quand les premiers ont frotté hein, des pierres, des bambous, etc. Ça commençait par une étincelle. Une étincelle qu'enflamme une grande forêt. Tous les ans, dans la période estivale, on nous dit que le sud de la France brûle. Le Portugal a été dévasté encore cette année, hein, des milliers et des milliers d'hectares, parce que bon, il y a des pyromanes, et puis il y a aussi peut-être le fait naturel du temps, qui fait qu'il y a quelquefois un départ de feu, mais qui peut embraser une grande forêt, nous dit Jacques. Ici, il est question de destruction et de dégâts. Une si petite flamme qui cause un incendie considérable. Et pourtant, quelle est la proportion entre une flamme qui jaillit comme ça, c'est pas grand-chose, quand vous craquez une allumette, c'est pas grand-chose, et puis un feu, mais qui peut s'étendre sur des kilomètres et des kilomètres. De même, dira Jacques dans notre lecture, la lampe est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Ça, c'est la conclusion des trois aspects que nous avons vus. Où la vanité tient une place prépondérante. La vanité. La Bible nous parle de différents péchés. Elle nous parle de l'orgueil. Elle nous parle de la parole malveillante. Elle nous parle de la jalousie. Elle nous parle de l'envie. Elle nous parle d'une infinité de choses qui ne sont pas belles et bonnes. Mais là, elle nous parle aussi de la vanité. Qu'est-ce que la vanité? La vanité, c'est du vent. C'est des choses qui peuvent être dites, qui peuvent être faites, mais qui sont faites pour peut-être impressionner les autres, mais qui n'ont rien, aucune valeur. La vanité dans l'usage de la parole, et cela peut devenir mensonge et voire même imposture. Dans 2 Pierre chapitre 2 et au verset 18, il nous est parlé de, et ça c'est dans le contexte de l'Église de ce temps, avec des discours, dira-t-il, pour certains personnages, discours enflés de vanité, ils amorcent par des convoitises de la chair, par des dissolutions, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Pierre est radical dans son jugement par rapport à ce qui peut se dire, et se dire même dans le contexte de l'Église, du monde évangélique. Les versets suivants rendent bien l'amplitude désastreuse de la mauvaise langue. Quand il est dit, et je ne reprendrai pas tous les versets, mais je dirai l'essentiel de la pensée de ces versets, elle est un feu. C'est le monde de l'iniquité. Elle souille le corps. Elle enflamme le cours de la vie. Quoen dira ceci, elle peut enflammer toute notre existence et mettre le monde en flamme. Et c'est vrai que quand on regarde et considère certains discours politiques d'une certaine époque ou d'un certain temps, qui finalement, eh bien, peut se reproduire aujourd'hui, on peut enflammer le monde. Hein. Quand on pense à ces discours de haine, ces discours de destruction, ces discours de supériorité raciale, je me dis, mais qui ont laissé des millions et des millions de morts avec de simples paroles, et des gens qui avaient une autorité dans la parole, des orateurs, mais dont l'inspiration n'était pas seulement une inspiration humaine, mais une inspiration diabolique. Et ce qui est vraiment incompréhensible, c'est qu'il y a des gens qui les suivent. C'est ça Et l'Antéchrist, quand il viendra, il faudra s'attendre à ce genre de choses, mais démultipliées. Elle est parfois une source d'enfer, nous dit le verset 6. Elle est indomptable également, nous dit cet épître de Jacques. C'est un mal irrépressible, vecteur d'un venin mortel. Ces mots que je cite, ce sont les mots que nous avons lus. Hein. Je n'en ai pas ajouté. Et pour nous donner toute l'amplitude de ce que peut causer, finalement, l'usage inconsidéré de la bouche de la parole. Il y a 8 aspects terrifiants dont personne ne peut minimiser l'étendue des dommages qu'elle occasionne. Et je le rappelle, c'est un feu, donc ça brûle. Parce que le feu brûle. Elle est inique. Donc si c'est inique, la parole peut être injuste. Elle est injuste. Elle souille. C'est-à-dire qu'elle salit la réputation. Elle enflamme. Et qui parle d'enflammer parle de passion. Et vous savez, quand les gens sont passionnés, qu'est-ce qu'on peut faire pour réprimer quelquefois la parole passionnelle ? C'est terrible. On le voit dans le monde, mais on le voit aussi dans l'Église. D'une manière ou d'une autre, quand quelqu'un perd la carte, excusez-moi, à ce moment-là, mais c'est terrible ce que ces gens sont capables de dire, soit par la jouissance, ou soit par la souffrance. On en parlait il y a 3 semaines. Et c'est terrible cela. Elle rend fou. Et c'est pourquoi Jacques parlera de géhenne. Parce que la géhenne, c'est le tourment. Et avec des paroles, nous pouvons tourmenter d'autres personnes. Je l'ai constaté, hélas, parfois même en pleurant, pour l'avoir moi-même expérimenté, ou l'avoir vu chez les autres, peut-être moi-même l'avoir fait, sans m'en rendre compte. Parce que faut savoir aussi quelquefois se regarder à soi-même. Mais de voir qu'avec une simple parole maldite, on a pu empêcher les gens de dormir, on a pu les tourmenter pendant 8 jours, pendant 15 jours et peut-être davantage. Jacques ne minimise pas et il n'amplifie pas ce texte du chapitre 3. Elle apporte donc le tourment. Elle est indomptable. Elle ne connaît ni la sagesse ni la raison. C'est de la folie. C'est pour ça que dans Marc, quand Jésus nous dira « Voici les choses qui sortent du cœur de l'homme » et il terminera par la folie. Vous avez remarqué ? Chapitre 7, verset 21 de Marc. Parce que ça, c'est l'ultime aboutissement, la folie. Un venin mortel. Elle enfièvre, elle hallucine, elle donne la mort. La langue entraîne à tous les péchés qu'on puisse imaginer pour faire tomber les hommes. Et vous savez que la première chose qui a été introduite dans le monde, c'était, après la parole de Dieu, c'était la parole du serpent. Est-ce que Dieu aurait-il réellement dit « Allez, pouf !» Tu sais, Dieu t'aime pas. Parce que s'il t'aimait, il te laisserait faire ce que tu veux. Puis s'il t'a raconté cette histoire de fruits défendus, l'arbre de la connaissance et tout ça, c'est parce qu'il veut pas que tu sois comme lui. Mensonge. Parole qui a enflammé le monde et qui aujourd'hui nous en porte encore les conséquences par le biais de la mort, par le biais de tous les tourments. Que de meurtriers qui n'ont jamais eu une arme à la main, mais dont la langue a porté la mort de l'âme et la mort dans l'âme. On n'a pas besoin d'avoir une Kalachnikov chez soi. Et de toute façon, c'est interdit, je le rappelle. Au cas où vous auriez la tentation. Mais nous avons un pouvoir par nous-mêmes de faire le bien, mais nous avons un pouvoir terrible de faire le mal. Que de vie meurtrie et de cœur brisé à coups de langue. Ah oui, ça paraît pas, hein, comme ça. À coups de langue. On a remarqué que quand les gens s'entendent, ça va toujours bien. À partir du moment où ils commencent à se diviser, où ils commencent à s'éloigner les uns des autres, je peux vous dire que c'est terrible. Affreux. On dit la guerre, mais la guerre, elle existe. Elle n'existe pas seulement avec des fusils, avec des canons, etc., mais la guerre, elle existe aussi à partir de ce petit organe. À coups de langue. Combien dans l'histoire des hommes, de braves gens, entre guillemets, qui sont sûrs de n'avoir jamais, proclament-ils, ni tué ni volé, et dont la langue a violé plus d'une fois, et allègrement, le quatrième, le sixième et le neuvième commandement de la parole de Dieu. On va les rappeler. Quatrième, sixième et neuvième commandement. Le quatrième, tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain. Premier. Deuxième commandement, violé allègrement, tu ne tueras point. Ah Seigneur, j'ai jamais touché un fusil. Oui, mais peut-être que Dieu pourrait nous dire, mais t'as pas touché un fusil. Mais dis donc, tu t'es vraiment servi de ta langue. Neuvième commandement, tu ne répondras pas de faux témoignages. Si je traduis en langage accessible, peut-être pour notre temps, tu ne mentiras pas. De faux témoignages, c'est ça, c'est mentir. Quatrième, sixième, neuvième commandement. Et vous avez des gens qui vous diront, mais moi je suis un brave homme, je n'ai ni tué ni volé. Alors, avant toute parole prononcée, souvenons-nous que la langue douce, comme dans le texte, c'est-à-dire un langage bienveillant, est un arbre de vie. Mais la langue perverse, c'est-à-dire la langue qui est mal intentionnée, brise l'âme. En connaissance de quoi nous pouvons, nous, enfants de Dieu, faire monter cette prière Éternel, je te le demande, mets une garde à ma bouche et veille sur la porte de mes lèvres. Proverbe 15 et le psaume 141, pardon. Vous retrouverez ces versets. Mais une porte. Quelquefois, ça boue à l'intérieur de nous-mêmes et nous aurions bien envie de sortir ce que nous avons envie de sortir. Parce qu'il y a l'énervement, il y a l'impatience, il y a toutes sortes de facteurs. On se dit, mais, oulala. Et on le sent. Et avec la grâce de Dieu, et je dis bien qu'avec la grâce de Dieu, hein, parce que qui peut dire qu'il est sage quand on a envie de régler nos comptes. Et on se dit qu'en réglant nos comptes avec notre bouche, eh bien ça va être fini. Non, c'est pas fini, ça commence. Ça ne fait que commencer. Et c'est là justement le problème. Un simple mot, un propos qui échappe, une parole malencontreuse suffit quelquefois à plonger quelqu'un dans le découragement, dans le chagrin, dans les larmes, ou alors peut-être dans une réaction de colère, de l'irritation, et déclencher un ressentiment et faire d'une personne blessée, humiliée, outragée, un ennemi. Si on voulait s'y prendre, on ne pourrait pas s'y prendre mieux. J'explique ça parce que je crois que c'est éminemment humain ce que nous sommes en train de dire. Et quelquefois, nous avons vu des amis fâchés à vie, qui sont devenus des adversaires et des ennemis mortels, avec tout simplement une parole. Quand il ne s'agit pas quelquefois de ramasser les cadavres sur le bord de la route, ou les blessés qui ont été meurtris avec une parole, et ça c'est vraiment le travail du pasteur. Parce que quelquefois, vous savez, on est bien placé pour entendre des choses et d'autres. Et de ramasser des frères et des sœurs parce qu'ils ont été fusillés par des propos, alors j'irai pas voir jusqu'au mobile, mais des propos qui ont mis des frères et des sœurs, qui les ont mis par terre. Et en entendant ce qu'ils ont entendu, ça fait ressurgir toutes sortes de souffrances. Ils auraient pu s'en passer. Ça s'appelle peut-être achever les blessés en temps de guerre, ça. Et ça, c'est pas normal, c'est pas dans les conventions. Les hommes, on n'achève pas les blessés. Puis d'ailleurs, quel est le droit que l'on se donne pour justement régler nos comptes? L'âme humaine est d'une extrême sensibilité. Vous l'êtes, je le suis, nous le sommes tous. Ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse, je n'ai pas le droit de le faire aux autres. Nous restons tous fragiles. Nous restons tous sensibles. Nous restons tous très vulnérables parce que nous avons notre histoire à chacun. Et il y en a un qui est plus sage que tout le monde, c'est le Seigneur. Il sait. Et quelquefois, eh bien, sous une prétendue inspiration, nous allons nous diriger pour dire ceci et cela, nous ferions mieux de nous taire. Parce qu'au lieu de faire du bien, nous allons faire du mal. Parce que nous ne savons pas ce qu'il y a dans le cœur. Est-ce que c'est le bon moment pour dire des choses? Est-ce que véritablement la personne est suffisamment forte pour entendre les choses? Combien nous avons besoin d'être inspirés par le Saint-Esprit, frères et sœurs? Extrême sensibilité à ce qu'elle entend. Il vaut mieux prévenir que guérir. Un chrétien digne du nom qu'il porte doit se distinguer par sa réserve et son sens du bien. Dans Éphésiens, c'est l'apôtre Paul qui nous dit ceci, le sens du bien. Écoutez ces paroles, elles sont belles à mon sens. Chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Et tout de suite après, il est dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Vous remarquez ? N'attristez pas le Saint-Esprit. Toujours dans Éphésiens, au sujet de la parole et d'usage de la parole, chapitre 5, et au verset 3 à 4, il est dit ceci, que la débauche, ni aucune impureté, ni la cupidité c'est l'argent, vous savez, hein, ne soit pas même nommée parmi vous ainsi qu'il convient à des chrétiens des saints, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le, aucun débauché ou impur ou cupide ou idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours. Je poursuis au verset 9. Par elle, dit Jacques, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Alors là, il faut absolument que nous reconnaissions ce que Jacques nous dit, parce que si nous voulons être délivrés de nous-mêmes, il faut que nous prenions toute la mesure de ce que Jacques nous montre comme exemple. La reconnaissance de la pertinence du propos. Quand il dit, voilà, eh bien par cette parole que Dieu nous a donné faculté, nous bénissons Dieu. Et puis en même temps, nous nous servons de cette parole en ce qui concerne nos frères. En d'autres termes, si Jacques aurait pu prolonger, et moi je paraphraserais, si vous me le permettez, ce qu'il écrit, je dirais, mais comment peut-on être si inconséquent ? Je chante des cantiques, je bénis le Seigneur, et à côté de ça, j'utilise cette même parole, faculté que Dieu m'a donnée, pour dire des choses. Alors, c'est de l'inconséquence. Où suggère Jacques de deux sources dans la même bouche. Je sais qu'en plomberie et en tuyauterie, je ne sais pas comment on peut expliquer ça, en sanitaire, maintenant on a de beaux robinets avec deux, enfin on a de beaux, oui, distributeurs d'eau, avec deux robinets puis avec un seul tuyau. Il y a des mélangeurs. Mais de deux sources dans la même bouche. Nous bénissons et nous maudissons. C'est ça ce qu'il faut retenir. Nous sommes capables de bénir et nous sommes capables de maudire. Double nature. Dieu notre Père et l'homme notre frère. Parce que c'est bien cela ce que nous avons à comprendre. C'est ce que Jacques veut nous donner de comprendre. Dieu notre Père et l'homme mon frère. Il y a dans la façon de faire, par l'usage que nous faisons de notre langue, quelque chose que je qualifierais d'illogique. Illogique. Qui trahit une croyance en Dieu sans vie ni profondeur. Ben oui, sans vie d'abord, parce que quand on maudit, c'est pas la vie que nous distribuons, c'est la mort. Et puis sans profondeur, c'est que nous sommes nous-mêmes très superficiels. Si nous sommes capables de dire « Béni soit le nom du Seigneur », et qu'à l'autre côté, je suis capable de dire des choses affreuses, alors là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et le problème n'est pas chez Dieu. Le problème n'est pas chez mon frère, même s'il a... Bon, c'est son affaire. Mais le problème est réellement chez moi. On pourrait peut-être parler de contradiction aveugle qui fait que tout ce qui est dit de et en mal à l'encontre d'autrui dévalue l'image de celui qui l'a créé. Parce que quand je dis des choses par rapport à mon frère, ou à ma sœur, à mon mari, à ma femme, à mes enfants, ou à tout ce que vous pourrez imaginer, toutes les relations que je peux avoir, à ce moment-là, j'oublie que mon frère, ma sœur, j'oublie qu'il est à l'image aussi de Dieu que moi je le suis. Et à partir du moment où je le descends en flamme, façon l'expression, eh bien, c'est l'image de Dieu qui est en lui, même si elle est altérée, même s'il a fait des bêtises, même s'il a fait ceci et cela. L'évangile, c'est la grâce. On est bien d'accord. Parce que on veut peut-être qu'on nous fasse grâce à nous-mêmes, mais peut-être commencer aussi par les autres. Alors, je me dis qu'à ce moment-là, à partir du moment où je salis quelqu'un par ma langue, c'est l'image de Dieu que je suis en train de maculer. Je suis en train de prendre de la peinture noire et je suis en train d'appliquer sur le visage de Dieu. Les paroles sont fortes, mais c'est pourtant la réalité des choses. Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu, le texte nous le dit. Quand je prêche, je ne me contente pas de citer des versets bibliques. Moi, on m'a appris en prêchant à aller dans le texte. Quand Paul dit à Timothée, prêche la parole, c'est ça ce que ça veut dire. Aller plus loin, finalement, que les choses nous viennent et que nous pouvons comprendre. C'est aller dans le sens de la pensée du Saint-Esprit pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions mûrir, que nous soyons des hommes et des femmes faits en Jésus-Christ. Parce que la sanctification, c'est pas un vain mot. La sanctification, c'est aussi, passe par une compréhension de la pensée de Dieu. Pour que cette pensée de Dieu s'imprègne en nous et que là, eh bien, ce travail qui a été commencé par la repentance, la conversion et la nouvelle naissance se prolonge pour que nous soyons faits à l'image de celui qui nous attend dans la gloire. Et ça commence ici. Nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Le verset 10, « De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. » Alors je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter ce matin. « Bénédiction, dire, diction, dire, parole. Béné, bien. Malédiction, diction, dire, en mal, malédiction. Dit en bien, pour le bien, dit en mal, pour le mal. » Et s'il y a un code d'honneur des chrétiens, eh bien c'est cette parole qui nous est donnée dans la suite du verset 10. Il faut, mes frères, et moi je vois Jacques, en écrivant ces choses, ou en les disant ultérieurement à ceux qui l'écoutaient, je vous en prie, mes frères et mes sœurs, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu de vous. Je vous en supplie, je vous en conjure, dira Paul, bien sûr pour le salut, de vous réconcilier avec Dieu, mais là peut-être Paul aurait pu dire la même chose que Jacques, je vous en supplie, de grâce, qu'il n'en soit pas ainsi au milieu du peuple de Dieu. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Les paroles amères sont un indice certain de l'état d'esprit et de cœur, sans toutefois oublier que les paroles douces ne doivent pas être hypocrites. Vous allez me dire que je tords un petit peu les... Enfin, je ne tords pas, non, je prends les choses dans tous les sens, parce que aussi prêcher, c'est de donner un aspect des choses et donner son contraire, pour la pleine compréhension. Et c'est comme ça que Jésus a toujours fonctionné. Vous reconnaîtrez dans les paraboles, c'est comme ça que Jésus enseignait. Il donnait des choses, et puis après, non pas qu'il disait le contraire, mais il donnait tous les aspects des choses pour avoir une connaissance et un fondement solide de compréhension spirituelle. Et nous voyons que là, eh bien, il nous est simplement dit que, attention, faut pas que les paroles douces deviennent des paroles hypocrites. Mon frère, ma sœur, je t'aime, et puis finalement, n'en faire rien. Le langage est le miroir étonnant qui est le reflet du cœur. Et vous savez que Jésus en a parlé. Et à ce titre, dans l'évangile de Matthieu, il nous est donné cette pensée qui me semble très, très judicieuse et très pertinente au chapitre 12, reflet de l'état du cœur. Et Jésus dira ceci à ses disciples, « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, dit-il, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. C'est Jésus qui le dit. Et ça fait partie des grandes pensées que nous pourrions appeler les pensées du sermon sur la montagne. En quelque sorte, nous pouvons les comprendre de cette manière. La source du mal est dans le cœur, nous dit Jésus. Certes, bien caché, mais la bouche met en lumière ce qui est dissimulé. Et si les choses ne se révèlent pas sur cette terre, Jésus nous dit que dans le ciel, à ce moment-là, eh bien, nous serons tantôt justifiés ou tantôt ou soit condamnés par les paroles que nous aurons proférées parce qu'elles manifestent le fond, parce que les effets qu'elles peuvent avoir sont traduits en actes et ces actes mêmes sont de la même nature que le cœur qui les a pensés et les propos qui les ont révélés. C'est comme ça que Jésus explique que finalement, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On le voit, on peut le constater dans nos réactions, parfois d'impatience ou épidermique. Quand on est irrité, quand quelqu'un nous irrite, on dit des choses qui montrent bien qu'on est irrité. Ou parfois, quand il y a un fond de grossièreté ou de vulgarité qui n'a jamais été, excusez-moi, mais curé au fond de nos âmes, eh bien ça revient. Ce qui n'est pas forcément toujours très correct et très convenable pour des enfants de Dieu. Le problème, c'est pas ce qui sort, c'est ce qui sort de dedans. Et Dieu nous demande, et Dieu se porte non pas pour nous juger et nous condamner, parce qu'il sait très bien qui nous sommes. Et s'il nous a choisis, c'est pas parce que nous étions des petits anges avec des ailes et... hein, enfin, tout ce que vous voudrez, le cliché classique. Mais parce que justement nous étions des pécheurs. Et de ces pécheurs-là, ils vont en faire des saints. Et ils nous demandent, eh bien, quelquefois, eh bien là, de regarder un petit peu par rapport à nous-mêmes et de dire, mais voilà, je te propose depuis longtemps, je te propose depuis toujours, je te propose que véritablement tu me laisses entrer et œuvrer dans ton cœur par le Saint-Esprit, parce que moi je voudrais que tu aies un cœur pur, que tu aies un cœur propre. Parce que de ce cœur pur et propre, eh bien, tu vas avoir des propos qui seront purs et des propos qui seront propres. La logique est respectée, comme nous dit le verset 12. Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Une vigne, des figues. De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. On vit dans un monde où il y a des fruits hybrides. Alors, il me semble que le brugnon, c'est un mélange de... Enfin, vous me direz ça à la sortie. Hein. Ouais, parce que c'est ça, hein, les hommes avec les techniques d'agronomie, enfin, ces techniques, ils arrivent à faire des fruits et des composites, voyez. Mais dans la parole de Dieu, je crois qu'on n'est pas appelé à être des hybrides. Il est plus facile de saler de l'eau que de la dessaler. Et c'est pas parce que vous mettrez trois fois plus de sucre que l'eau ne sera pas salée quand même. C'est pas comme ça qu'on fait. Hein. Saler de l'eau, c'est simple, mais la dessaler, c'est autre chose. Chaque nature garde ses caractéristiques propres. Alors bénir Dieu, n'est plus à ce moment-là un acte de reconnaissance et de foi sincère, le fruit d'un cœur transformé, mais plutôt, s'il y a de la critique, de l'amertume et de l'aigreur, l'acte d'une foi morte et d'une foi hypocrite. Eh oui. Moi j'aime bien Jacques, je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est pratique. Il est pratique. Et nous avons besoin, nous en tant que chrétiens, d'être pratiques. Parce que c'est ça ce qui va nous faire avancer. Parce que nous sommes des hommes et nous marchons sur la terre. Versets 14 et 15. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. L'avertissement est des plus solennels. Dans Jean, et je vais bientôt terminer, chapitre 4, verset 20-21, il est dit ces paroles. Si quelqu'un dit, et tous nous l'avons dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, le mot est fort, qu'il l'aime pas beaucoup, qu'il l'aime pas beaucoup, qu'il l'aime pas du tout. C'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Là, il y a un tour de magie, là. Un tour de force, hein. Il y a quelque chose. Hein. Ah oui, Seigneur, je t'aime parce que je te vois pas. Par contre, celui-là, je ne peux pas véritablement le prendre en considération parce que je le vois et parce que je le vois, ça m'irrite. Et je l'aime pas. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. S'il y a un progrès énorme à faire dans nos églises, c'est de nous aimer les uns les autres. Alors on n'est pas tous pareils. Il y a des blonds, il y a des bruns, il y en a même qui ont les cheveux gris, les yeux marrons, les yeux verts ou les yeux bleus. Et puis, nous ne nous habillons pas de la même manière, nous n'avons pas forcément la même éducation et ceci et cela, mais pourtant Dieu nous a réunis ensemble. Ouais. Nous venons de différents horizons. Et Dieu nous a réunis ensemble, frères et sœurs. Non pas pour que nous nous fassions du mal, mais que nous nous fassions du bien. Et ça, c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est Dieu qui l'a choisi, et s'il l'a choisi, c'est que c'est bon. Même si parfois, eh bien, je dois vivre en compagnie, si je dois vivre des choses, si je dois être discipliné, si je dois rentrer à l'école divine du Saint-Esprit, si je dois aller en prison, pas la prison, commissariat et tout le reste, non, mais en certaines prisons. Parce que Dieu l'a voulu ainsi. Et à partir du moment où Dieu me veut ainsi, et dans l'amour des autres, pas de l'amour de moi-même, de mon ego, et puis d'une valorisation de ma personne, mais à partir du moment où je suis à cette place, comme Dieu dira finalement à Élie au torrent de Kérite, je te nourrirai là. Alors non seulement il va nous donner le pain de la terre, mais il risque de nous donner aussi le pain du ciel. Et à partir du moment où je veux me soustraire de cela, parce que j'ai des problèmes, j'ai des difficultés, je m'en vais, je quitte l'église pour aller dans une autre, ou dans une autre région, etc. Si ce n'est pas conduit par le Seigneur, on sera très malheureux, ça je peux vous le dire. Moi, on me l'a souvent dit. On m'a dit, vaut mieux souffrir là où tu es avec Dieu que de souffrir ailleurs sans Dieu. Et je crois que ce sont des paroles d'anciens qui sont tout à fait justes. Parce qu'à partir du moment où on a quitté le lieu où Dieu nous veut, parce que quelquefois on aurait envie de partir. On dit, oh là, trop de problèmes, trop de difficultés, je vais aller ailleurs, je vais souffler un peu. On va souffler, il va y avoir un état de grâce pendant 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, puis à un moment donné, ça va repartir. C'est forcé. Puisque le problème n'est pas forcément uniquement dans l'extérieur, il est aussi à l'intérieur de nous-mêmes. Et je crois que nous avons besoin, là, de prendre toute la mesure, parce que il faut mieux être là où Dieu nous veut, et puis Dieu va nous donner cet épanouissement et ce développement, même si je dois apprendre à aimer, parce que c'est ça, là, la grande question. Et l'avertissement est solennel. Fuir une situation parce que je n'aime plus ou je n'aime pas. Ça, c'est vrai dans l'Église, mais c'est vrai pour un mari ou une femme, parce qu'aujourd'hui, on fait tellement bon marché du divorce. Je ne t'aime plus, je te quitte. Ah ouais, bah oui. Vous allez voir un avocat, vous passerez devant un jugement, et puis ça sera terminé. Mais est-ce que le problème sera solutionné pour autant ? Ce que j'ai contre toi, dit Dieu, à l'église d'Éphèse, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Il faut vouloir aimer. Si je ne veux pas aimer, j'y arriverai jamais. Si je veux aimer, j'y arriverai avec la grâce de Dieu. Et je vais trouver encore de nouvelles dimensions et de nouvelles proportions qui vont me transformer moi-même, parce que l'amour, ça transforme. Et Dieu va nous faire aimer des gens qu'on n'aime pas naturellement. C'est ça le miracle de Dieu. Et Dieu nous fera rencontrer des gens avec lesquels on n'aura pas forcément d'affinité. Mais pourtant, on va découvrir dans ces gens, quand on va les connaître, qu'il y a une richesse à partager. Vérification pratique et conclusion. Si quelqu'un dit, le texte nous dit, si quelqu'un dit. Vous voulez que je vous cite un proverbe chinois ? Moi, j'aime bien les proverbes. Enfin, vous allez comprendre. Mais c'est vrai que quelquefois, les gens ont pensé qu'ils n'étaient peut-être pas chrétiens, mais quelquefois, ils ont dit des choses que la Bible a dit. Il y a un proverbe chinois qui nous dit ceci : le bavardage est l'écume de l'eau. L'action en est la goutte d'or. C'est pas de dire si quelqu'un dit, c'est si je le dis, je le fais. Un autre proverbe français. Les grands diseurs ne sont pas les grands faiseurs. Eh oui, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Je t'aime Seigneur, j'aime mon frère, j'aime ma sœur, et puis finalement en pratique, on s'aperçoit que c'est pas toujours ça. Jean amène, l'apôtre que nous avons lu le dernier texte, amène ici la plus judicieuse des réflexions à laquelle on ne peut échapper au risque de se retrouver dans le mensonge. Il dit, c'est un menteur. Il aime Dieu et puis il n'aime pas son frère, donc c'est un menteur. Dire et faire sont indissociables. Et en voilà l'explication. Aimer Dieu et le déclamer sur tous les registres, à travers nos cantiques, à travers nos prières et nos louanges, ce Dieu bon qu'on ne voit pas, et haïr son frère, qu'on voit trop bien dans ses défauts, n'est-ce pas cela finalement se mentir à soi-même ? On ment pas aux autres, on se ment à soi-même. Si nous pouvons parvenir à aimer l'un comme l'autre, alors à ce moment-là, nous nous mettons en porte-à-faux de la grande loi qui régit le royaume de Dieu, qui est la vérité. Cet autre que je ne vois pas et connais, que je vois et que je connais, est quelque part, par la grâce du salut, la preuve visible de ce Dieu invisible. Je suis sauvé, mais lui aussi est sauvé. Il peut-être pense pas tout à fait comme moi, il a peut-être pas forcément la même façon de vivre que moi, mais néanmoins je dois reconnaître que chez mon frère et ma sœur, l'amour de Dieu est venu sur lui. Et il bénéficie aussi de ce salut. Vous savez, si on part, je ne veux pas aller très loin, mais si on part dans ces raisonnements comme ça, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des divisions dans les églises. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait des grands mouvements qui s'affrontent. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait du racisme. Ça ne m'étonne pas qu'il y ait toutes sortes de choses qui ensanglantent notre monde et qui déshonorent celui qui en est le créateur. Ce frère que je vois, parce que je vois et je connais trop bien ses défauts. C'est pour ça, ça c'est dommage. Alors, il est aussi enfant de Dieu autant que je le sois, que je le suis moi-même. Donc, nous sommes frères. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas ? Et nous avons ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. L'amour pour le frère qu'on voit est d'autant plus vrai et réel qu'il est le fruit d'une victoire sur moi-même. On parle de victoire, victoire de Dieu, victoire sur les ennemis, victoire sur en toutes sortes de choses. Mais vous savez que la plus grande victoire que Dieu veut nous faire remporter, c'est d'abord sur nous-mêmes. Et après, on parlera des autres victoires. On pourra en parler. Victoire sur moi-même. Victoire remportée par l'obéissance à son commandement d'aimer. Et quand on m'aime, alors à ce moment-là, ma bouche va devenir une source d'eau douce. Une source de bénédiction, une source qui va glorifier mon Dieu que j'aime et mon frère, parce qu'il fait partie aussi de la même famille que moi. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce. Que Dieu nous aide ce soir, ce matin, pardon. Que Dieu nous donne sa grâce, parce que vous savez, ce message, Dieu me l'a mis sur le cœur, vous en doutez, parce que nous prions, nous tenons devant Dieu. Et je voudrais que ce message ne soit pas pris pour une visée, parce que je ne vise personne. Ça n'a jamais été mes méthodes de travail depuis 30 ans que je prêche. Mais je crois que ça fait partie de ce que Dieu me demande de dire à l'Église. Lorsque je dois parler à l'Église, que ce soit à Angers, que ce soit ici ou ailleurs, ça sera exactement la même chose. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il voudrait que nous élevions un petit peu le niveau. Ouais, que nous ne soyons pas comme le monde. Et que Dieu nous aide, finalement, dans la compréhension de sa parole et que nous nous tenions devant lui en disant « Seigneur, oui, c'est vrai. » Nous avons tous besoin de faire des progrès. Et cette parole, je vous la dis, frères et sœurs, mais je la dis aussi à moi-même. Je tiens à le dire. J'en ai besoin, comme tout le monde. Alors que Dieu nous aide, que Dieu nous donne sa grâce. Alors ce matin, nous allons avoir un temps de louange et un temps d'adoration, que ça ne vous empêche pas d'ouvrir la bouche. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier à la suite de ce message que nous avons entendu et que nous fassions vraiment des progrès. Ça, c'est important. Que Dieu nous bénisse. Amen.